Radio Kapi.
Le président Félix-Antoine Tshisekedi réitère son engagement à améliorer tant soit peu les conditions de travail des militaires et policiers afin d'améliorer leur rendement au service du peuple congolais. Le chef de l'État l'a dit hier à Kinshasa lors de la cérémonie d'échange de vœux avec les forces de défense et de sécurité nationale. Le panel des experts de la société civile évoque des signes qui alertent que les élections n'auront pas lieu en 2023, allusion faite aux contraintes évoquées dans la feuille de route récemment publiée par la CENI et à la guéguerre entre le ministre des Finances et la CENI. Cette alerte est contenue dans une déclaration rendue publique hier à Kinshasa. Et puis, le 18 février, aujourd'hui, la Constitution congolaise totalise 16 ans jour pour jour. Quelle évaluation faire quant à son applicabilité après ces 16 années? Pour en parler, nous recevons le professeur Telesphore Malonga, constitutionnaliste et professeur d'université. Madame, Messieurs, bonjour. Le président de la République, en sa qualité de commandant suprême des FARDC et de la police nationale, exhorte les militaires au front à plus de courage et d'abnégation. Il a réitéré son engagement à ne ménager aucun effort pour améliorer tant soit peu les conditions de travail des militaires et policiers afin d'améliorer leur rendement au service du peuple congolais. Félix-Antoine Tshisekedi leur rappelle le sacré devoir de défendre la patrie et en retour, la patrie a l'obligation de tout mettre en œuvre pour mettre les militaires et leurs familles respectives à l'aise, afin que leur travail soit exemplaire. Le chef de l'État s'est ainsi exprimé au cours de la cérémonie d'échange des vœux avec les forces de sécurité et des défenses nationales. C'était hier au Palais de la Nation à Kinshasa. À cette occasion, il a dénoncé les antivaleurs et l'indiscipline au sein de l'armée et de la police. Pelé Kipela Mundo nous en dit plus.
Officiers supérieurs et subalternes, sous-officiers des FARDC et de la PNC, corps de garde nationaux et des services nationaux, tous étaient valablement représentés à cette cérémonie, prenant la parole dans ce que l'on peut qualifier de causerie morale. Au regard du contexte sécuritaire actuel, le chef de l'État a encouragé les FARDC à lutter contre les antivaleurs qui minent l'armée, entraînant l'affaiblissement de son rendement. Même recommandation, la police nationale appelée à être exemplaire, notamment dans la lutte contre les embouteillages qui paralysent les trafics routiers dans les grandes villes, avec un impact négatif sur l'économie nationale. Au corps des gardes nationaux, Félix Tshisekedi a salué leur sens de sacrifice pour la protection de la faune et de la flore qui font la fierté de la RDC. Il s'est dit aussi fier du service national pour le travail abattu, épinglant plusieurs cas d'indiscipline constatés à tous les niveaux de commandement dans l'armée et la police. Les chefs de l'État a qualifié un tel agissement de trahison vis-à-vis de la République. Nous serons davantage plus sévères vis-à-vis de tous ceux qui s'adonneront à ce genre de pratiques, a-t-il dit, et d'ajouter, je le cite, « Je serai sans ménagement à l'égard des officiers véreux et récalcitrants et les contrevenants ou récidivistes subiront la rigueur de la loi. » Fin de citation. Aux policiers qui s'estiment lésés de voir le commandant suprême accorder plus d'attention à l'armée, le président de la République leur a rassuré qu'il tâchera de rééquilibrer les choses afin de garantir l'harmonie au sein de ces deux corps.
Le président de la République a aussi rappelé que l'armée et la police restent apolitiques. De leur côté, dans une déclaration lue par le porte-parole des FARDC, les forces de défense et de sécurité ont renouvelé leur soutien aux chefs de l'État et aux institutions de la République. Elles ont réaffirmé leur disponibilité à œuvrer à l'accomplissement de la mission leur dévolue jusqu'au sacrifice suprême sans jamais trahir le Congo. Ici à Kinshasa, signalons le retour en force du phénomène Kuluna dans plusieurs quartiers et communes de la capitale. La population s'en plaint. Dans certaines parties de Makala, de Lemba ou de Kisenso par exemple, des affrontements sont courants entre écuries, des quartiers ou des communes voisines. Les bourgmestres dénoncent. Ces derniers plaident pour un renforcement du dispositif de la police. Ils appellent la population à dénoncer et témoigner. Ils demandent aussi à la justice de sévir davantage. Le bourgmestre de Lemba nous parle de sa commune, Jansa Kabekadjoa, et joint au téléphone par Babel Mpongo Masimango.
Ça commence à devenir pratiquement coutume à Lemba que les jeunes qualifiés comme Kuluna s'affrontent. La grande partie vient d'Engaba. Dans la partie sud de Lemba, il y a des jeunes qui viennent entre la frontière de Lemba et Kisenso. Il y a un autre groupe qui sort vers Kiimbi, frontière avec Matete et Kisenso. Et le plus important, qui sort du camp Kabila et du camp Bumba. Les phénomènes Kuluna prennent de plus en plus d'ampleur. Nous avons, dans nos débuts, interpellé un bon nombre de ces jeunes gens. Ils ont été jugés en flagrance aussi pour quelques-uns. Ils ont été déférés à Makala. Il y en a qui étaient condamnés à 15 ans, ceux qui étaient condamnés à 10 ans, ceux qui étaient condamnés à 7 ans, presque moins d'une année. Tous sont dehors. Et aujourd'hui, laissez-moi vous dire, la situation n'est pas très bonne par rapport à ces groupes de bandits, je ne vais pas mâcher le mot, qui blessent, ils cassent les biens de privé.
À Lemba, justement, un policier a été jugé en flagrance hier pour avoir tué deux personnes alors qu'il avait été dépêché avec d'autres pour ramener le calme au cours d'une bataille de gang à Lemba Terminus. Je vous le disais en titre, le panel des experts de la société civile évoque des signes qui alertent que les élections n'auront pas lieu en 2023. Il le fait savoir à travers une déclaration rendue publique hier, déclaration intitulée « Feuille de route de la CENI, bouillabaisse financière, mutualisation du fichier électoral, des signes qui alertent que les élections n'auront pas lieu en 2023 ». Cette prise de position intervient à l'issue d'une réunion sur l'analyse profonde de la feuille de route récemment publiée par la CENI. Pour le coordonnateur et porte-parole de ce panel, les contraintes évoquées dans cette feuille de route qui va de 2021 à 2027 apportent plus d'inquiétude quant à l'engagement manifeste d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. Aussi, note Dieudonné Mouchagaloussa, le jeu de ping-pong entre le ministre des Finances et le président de la CENI sur la problématique de financement des élections est une alerte sérieuse qui ne rassure pas les parties prenantes. Dieudonné Mouchagaloussa, joint par Jean-Désiré Kanyama.
Nous avons essayé d'analyser l'élément relatif à la mutualisation du fichier électoral. Mais à côté de cela également, ces jeux de ping-pong que nous livrent les ministres des Finances et le président de la CENI, ce sont des signes que les élections n'auront pas lieu tel que prévu par la Constitution. D'autant plus que la feuille de route fait un ballot d'essai sciemment prononcé de 2021 à 2027. Mais également, elle soulève plus de craintes, plus de questions que de réponses. Et si on y ajoute cette bouillabaisse financière et dès lors que cela vient du gouvernement, ça prouve que les moyens financiers ne seront pas mis valablement et au moment opportun à la CENI. Mais également, quand on prend la volonté de vouloir mutualiser les fichiers électoraux, l'identification des électeurs, c'est clair et net que c'est un glissement qu'on va faire. Et en toile de fond, l'élément encore le plus capital, la CENI n'a pas d'outils, la CENI n'a pas des instruments juridiques actualisés et il n'y a aucune volonté au niveau du Parlement pour doter la CENI de ces outils, les décors bien plantés pour les glissements sur base des hypothèses politiques.
La constitution en vigueur en RDC totalise aujourd'hui 16 ans d'existence depuis qu'elle a été promulguée. Quelle évaluation fait-on de l'application de la loi fondamentale congolaise 16 ans après? Suivez la réponse de Telesphore Malunga, constitutionnaliste et professeur d'université. Il est au micro de Florida Karambu.
Pour faire une brève évaluation, je voudrais partir un peu des objectifs même du constituant à 2006 et que nous trouvons dans l'exposé des motifs et dans le préambule. L'objectif principal, c'était la mise en place d'un nouvel ordre politique. Alors, à partir de cet objectif global, regardons d'abord la question de la légitimité des gouvernants. En principe, elle devait être résolue par un processus électoral transparent, pluraliste, honnête et tout ce que vous voulez. Alors, essayez de regarder du côté de ce processus électoral. Au bout de 16 ans, il n'y a eu les élections qu'au niveau national, au niveau provincial. Ça a été une seule fois. Au niveau local, jamais. Ça n'a jamais eu lieu. Si nous regardons maintenant du côté de l'état des droits, du point de vue de la démocratie, si le peuple ne peut pas participer à l'élection, s'il ne peut pas participer à la décision publique, voyez aujourd'hui, si je ne prends que l'exemple de l'état du siège, les gens demandent qu'on lève l'état de siège, mais on persiste. Est-ce que là, il y a respect de la volonté du peuple?
Bruxelles, la capitale belge, abrite depuis hier le 6e sommet Union européenne-Union africaine. Ce rendez-vous qui se clôture aujourd'hui a pour objectif de jeter les bases d'un partenariat renouvelé et approfondi entre les deux organisations. Des tables rondes thématiques sont organisées notamment sur des thématiques telles que le financement de la croissance, le système de santé et de production des vaccins, la paix, la sécurité, la gouvernance et le changement climatique. La RDC est représentée à ce sommet par son premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Hier, ce dernier a visité le musée royal d'Afrique centrale de Tervuren en Belgique, où il a été accueilli par son homologue belge Alexandre Descro, qu'accompagnait le secrétaire d'État chargé de la politique scientifique Thomas Dhermine. Jean-Michel Samalou Kondé a à cette occasion reçu un document reprenant la liste complète de tous les patrimoines venus de la RDC qui sont gardés dans ce musée. 27 millions de personnes auront besoin d'assistance humanitaire cette année en RDC et leurs besoins sont évalués à près de 1,9 milliard de dollars américains, chiffre révélé à l'occasion du lancement par le gouvernement du plan humanitaire 2022. C'était hier à Kinshasa, en présence de plusieurs représentations diplomatiques des pays donateurs. Reportage de Honoré Missenga Kalala.
La ministre de la Justice, Rose Mutombo, qui essaie à au nom du Premier ministre représenter le gouvernement à cette cérémonie. L'ONU, les donateurs ainsi que les acteurs de terrain sont tous unanimes. Cette année encore, la situation humanitaire en République démocratique du Congo demeure grave et complexe, surtout dans l'est du pays. Elle nécessite la mobilisation de 1,880 milliards de dollars américains pour assister 27 millions d'individus, dont 8,1 millions seront considérés comme les plus vulnérables. Nourriture, eau, médicaments, abris, protection et autres vont constituer les besoins prioritaires de ce plan humanitaire. En 2021, c'est 19,6 millions de personnes qui avaient besoin d'assistance et de protection contre 15,6 millions l'année précédente. 1,980 millions de dollars avaient été sollicités auprès des bailleurs. 39% seulement de ce budget ont été mobilisés. Toutefois, plus de 5,4 millions de personnes ont vu leurs besoins alimentaires couverts pendant cette période. 1,2 million d'enfants atteints de malnutrition aiguë ont eu accès aux soins et près de 2,1 millions de personnes ont bénéficié des transferts monétaires.
Et puis, le projet de construction du barrage hydroélectrique Inga 3 aura un impact environnemental et social négatif sur le vécu quotidien de la population congolaise et sud-africaine. C'est ce qui ressort du rapport présenté à la presse hier à Kinshasa par la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes de l'action publique, CORAP. D'après son secrétaire technique Emmanuel Moussouyou, l'étude publiée par l'ONG sud-africaine International Rivers et Women Alliance démontre qu'il y aura par exemple une perte de 500 mégawatts lors du transport de l'énergie électrique à partir de la RDC jusqu'en Afrique du Sud, sans compter le nombre des ménages qui vont être délocalisés pour la réalisation de ce projet. Emmanuel Moussouyou, secrétaire technique de CORAP, explique au micro de Tati Mapoukou.
Le rapport publié a démontré qu'il y aura, beaucoup de pertes. Plus ou moins 500 mégawatts de l'énergie qui sera envoyée en Afrique du Sud sera perdue par rapport à la distance. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut noter? C'est que les engagements qui sont pris généralement avec l'Afrique du Sud, les engagements pris avec avec les industries minières, ce sont des engagements fixes. Ils vont donner leur argent, ils vont payer l'énergie et ils ont besoin de l'énergie. Par exemple, l'Afrique du Sud qui veut 2500 mégawatts, parce qu'ils payent pour 2500, quel que soit le perte, il doit avoir 2500 mégawatts. Les miniers qui payent pour 1300 mégawatts, quel que soit les pertes, et ils ont besoin de 1300 mégawatts. Et sur cette clé de répartition autour de 4800 mégawatts, il y a 1000 qui restent pour la population. Maintenant, imaginez qu'il y a 500 mégawatts qui sera perdu seulement pour l'Afrique du Sud et ces 500-là sera déduit dans le package pour la population. Donc, en tout et pour tout, les impacts, qu'ils soient sur le plan accès à l'électricité, financière, environnementale, sociale sont vraiment assez importants pour la population congolaise et pour la RDC.
Précisons que International Rivers et Women Alliance encouragent plutôt le gouvernement sud-africain à orienter les capitaux destinés au financement du projet de construction de Inga 3 vers des programmes de promotion des énergies renouvelables. Dans l'actualité, sachez aussi que depuis quelques mois, le ministre de Commerce extérieur avait instruit la Direction générale de l'Office congolais de contrôle, OCC, de payer les arriérés des agents OCC décédés de 2013 à 2021 et les décomptes finaux des cadres et agents de cette entreprise admis à la retraite. Depuis 2015, en effet, ces droits n'étaient plus payés. Hier, Jean-Lucien Boussa a lancé officiellement l'opération de paiement de ces droits aux familles des agents décédés et aux retraités. Le retraité a un droit et les familles des décédés ont des droits consacrés par la convention collective. Et puisque nous sommes dans un état de droit, cela doit être mis en pratique, a déclaré le ministre Jean-Lucien Boussa de Commerce extérieur. On l'écoute dans cet extrait choisi par Pelé Kipela Mondo.
C'est aussi le moment de dire quel état de droit doit être effectivement vécu par les agents, par les cadres, les établissements publics, entreprises publiques et de l'État. Ce modèle-là, j'ai voulu l'imprimer à la tête du ministère du Commerce et j'ai eu des réunions avec la direction générale de l'OCC sur cette question. J'ai mis la pression sur eux pour que la réponse soit donnée immédiatement. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons l'avantage donc à la fois d'inaugurer le centre médical, celui d'un management que j'apprécie, mais aussi de répondre aux questions que nous pose la société vis-à-vis des retraités, vis-à-vis des personnes décédées. La réponse est ainsi donnée aujourd'hui et la perspective dans laquelle j'engage le conseil d'administration de l'OCC ou la direction générale de l'OCC est simple. En 2023, plus d'arriérés des retraités.
Actualité Afrique Monde.
9 années se sont écoulées depuis que l'armée française a foulé le sol malien pour repousser une vaste offensive djihadiste venue du nord pour fondre sur Bamako. Cependant, après un dîner de travail à l'Élysée auquel ont pris part une trentaine de dirigeants africains et européens, la France, ses partenaires européens et le Canada ont annoncé hier le retrait des forces militaires du Mali. Cette annonce a provoqué des vives réactions, tant dans la majorité que dans l'opposition en France. Certains partis politiques souhaitent que cette mission reste au Sahel, car la lutte contre l'islamisme n'est pas terminée, mais d'autres estiment que la France doit se retirer et surtout changer de politique.
L'invité.
Nous sommes bien le 18 février, cela fait exactement 16 ans, jour pour jour, depuis que la Constitution congolaise a été promulguée. Quelle évaluation faire quant à son applicabilité 16 ans après? Le professeur Telesphore Malunga, constitutionnaliste et professeur d'université, a répondu à cette question. Il s'entretient avec Florida Kahambu.
Professeur Telesphore Malunga, bonjour.
Bonjour madame la journaliste, bonjour aux auditeurs de Radio Okapi.
Quelle évaluation faites-vous de l'applicabilité de la constitution de la RDC 16 ans après?
Pour faire une brève évaluation, je voudrais partir un peu des objectifs même du constituant à 2006 et que nous trouvons dans l'exposé des motifs et dans le préambule. L'objectif principal, c'était la mise en place d'un nouvel ordre politique. Alors, à partir de cet objectif global. Regardons d'abord la question de la légitimité des gouvernants. En principe, elle devait être résolue par un processus électoral transparent, pluraliste, honnête et tout ce que vous voulez. Alors, essayez de regarder du côté de ce processus électoral. Au bout de 16 ans, il n'y a eu les élections qu'au niveau national, au niveau provincial. Ça a été une seule fois. Au niveau local, jamais. Ça n'a jamais eu lieu. Si nous regardons maintenant du côté de l'état des droits, du point de vue de la démocratie, si le peuple ne peut pas participer à l'élection. S'il ne peut pas participer à la décision publique, voyez aujourd'hui, si je ne prends que l'exemple de l'état de siège, les gens demandent qu'on lève l'état de siège, mais on persiste. Est-ce que là, il y a respect de la volonté du peuple? Si nous prenons l'aspect garanti des droits et libertés, aujourd'hui, si vous voulez, la liberté d'expression, notamment nous qui sommes sous état de siège, elle est même inexistante. Dans un contexte d'insécurité comme le nôtre, le droit à la vie, qui est le droit fondamental, est-ce qu'on peut encore dire qu'aujourd'hui, il est garanti?
Professeur, que pensez-vous de la séparation des pouvoirs?
Avec les deux premières législatures, nous avons eu cette sorte de prépondérance du PPRD avec une majorité présidentielle. Aujourd'hui, nous avons une prépondérance de l'Union sacrée, où finalement on voit que le chef de l'État, à travers ses structures, contrôle et le gouvernement et le Parlement. Et donc, il n'y a pas de véritable séparation des pouvoirs. Même la justice qui aurait pu faire le contrepoids, aujourd'hui, on cherche à la mettre sous la poche des gouvernants, au moins de ceux qui sont à l'exécutif. Et ce n'est pas seulement aujourd'hui. Ça a commencé avec la législature ou les législatures précédentes, et tout le monde voit la bataille qui est toujours autour de la Cour constitutionnelle. Si nous prenons les institutions d'appui à la démocratie. On voit aussi la bataille qui est autour de la CENI. Au lieu que ce soit des institutions vraiment indépendantes, là aussi, tous ceux qui sont au pouvoir cherchent toujours à les mettre sous leur poche. La justice dans notre pays. Aujourd'hui, notre justice, on a l'impression que c'est une justice pour les grands. rangs, on commence même à constituer pratiquement des personnes ou des personnalités qui sont hors d'atteinte. Je voudrais me référer ici, par exemple, au dernier arrêt de la Cour constitutionnelle dans l'affaire Matata Ponyo, qu'on puisse dire non, on ne peut pas juger un ancien premier ministre. Mais ça, c'est un arrêt de la honte, à mon avis. Si nous prenons la constitution à ses articles 164, 165, 166, il est clairement indiqué que le juge du premier ministre, c'est la Cour constitutionnelle. Je voudrais revenir maintenant sur la question de la libre administration des provinces. Aujourd'hui, la libre administration des provinces, elle est totalement étouffée parce que sur le plan organique, le pouvoir central veut le contrôler. Tous ceux qui sont à l'exécutif national veulent avoir des gouverneurs de leur tendance et qui donc vont appliquer non pas la politique de la province, mais la politique du pouvoir central. Sur le plan fonctionnel, plusieurs fois on a attendu des ministres de l'Intérieur, à l'absence de toute base légale, interrompre le fonctionnement des assemblées provinciales. Comme s'il y avait pouvoir de tutelle sur les provinces, alors que dans le cas de la régionalisation, justement, la tutelle est supprimée. Quand un ministre doit appeler, je ne sais pas, les membres d'une assemblée, t'es ne siégez pas. Ou alors on les renvoie à la police. Ou au moment où ils doivent exercer leur contrôle sur les gouverneurs, on les appelle à Kinshasa ou on appelle le gouverneur à Kinshasa. Ça, c'est une manière d'étouffer les fonctions des autorités provinciales. Alors, si vous me dites à combien de pourcents elle est peut-être appliquée, je dirais peut-être 20%. C'est qu'un grand échec.
Un grand échec, vous venez de le dire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
La première chose, vous savez, c'est d'abord développer la culture des textes auprès de nos gouvernants et auprès de nos gouvernés. Il faut considérer un texte comme un pacte social. Deuxième chose, je crois, c'est nous aussi gouvernés qui sommes peut-être trop passifs pour ne pas soit suffisamment revendiquer nos droits ou alors sanctionner ceux qui nous gouvernent pour les obliger à respecter la constitution.
Professeur Telesphore Malonga, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.